Mare Nostrum sur Radio Zinzinex.
Des mondes antiques aux migrants d'aujourd'hui.
L'actualité, la culture, les sciences sociales.
Dans l'ère méditerranéenne.
Aujourd'hui, le MAG et Mare Nostrum, émission spéciale. Après l'émission réalisée en direct de Marseille, au mois de juin dernier, au mois de juin 2019, c'était à l'occasion des JNA, les Journées Nationales de l'Archéologie, sur Marseille. Avec la MMSH d'Aix-en-Provence, représentée par Sylvie Lawrence, la Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme, avec de nombreux partenaires, des chercheurs, des doctorants. On a fait un petit peu le tour à travers ces ateliers et ces différents musées qui accueillaient le public, des différents travaux en cours. Tonight, my friend, we stand on the brink. Une autre date qui s'approche à grands pas, c'est le 10 octobre 2019, la fête de la science, en parallèle avec la fête des 80 ans du CNRS, notamment sur Marseille au MUCEM. Nouvelle émission donc de présentation à cette occasion-là, avec de nombreux invités présentés par Raymond de Mare Nostrum. Le CNRS, c'était un institut du radium en 1909, institut de biologie physico-chimique en 1927, en France en 1930, caisse nationale des sciences avec une ambition nationale pour les sciences. Créé par un décret-loi du 19 octobre 1939 pour coordonner l'activité des laboratoires en vue de tirer un rendement plus élevé de la recherche scientifique. Rationaliser la recherche scientifique remplace Caisse nationale de recherche scientifique et CNRS appliqué. L'idée de cet organisme revient à Jean Zay, ministre de l'Éducation nationale sous le Front populaire, et Irène Joliot-Curie, prix Nobel en 1935 et secrétaire d'État, ainsi que Jean Perrin. Il a également créé le Musée National des Arts et Traditions Populaires, dont est en partie héritier le MUCEM, dont on va parler aujourd'hui. Le CNRS est réorganisé ensuite en 1949 et orienté vers la recherche fondamentale. Une nouvelle accélération avec De Gaulle, doublement du budget en 59 et 62, puis élargissement des champs d'intervention avec des contrats d'association, avec des laboratoires universitaires ou des institutions indépendantes, nationales ou étrangères, comme l'Institut National de Physique Nucléaire, et lancement de programmes interdisciplinaires. Aujourd'hui, avec des moyens humains, recrutement, gestion, environ 25 000 personnes, des dotations de fonctionnement, des financements ciblés sur des projets de recherche. Structure qui se trouve notamment dans les tout premiers rangs mondiaux dans la production scientifique, dans les 10 premiers établissements pour le dépôt de brevets, plus de 4000 brevets actifs, plus d'une quarantaine de ces personnels ou anciens personnels ont reçu un prix international comme le prix Nobel ou encore la médaille Fields.
merci Fabrice pour ce rappel historique. Donc, ce 43e numéro de Marie Nostrum est un numéro un peu exceptionnel. C'est un numéro anniversaire, décidément, en ce début d'année, on est très anniversaire, puisque il y a quelque temps, on fêtait l'anniversaire d'une association amie avec qui nous sommes partenaires aussi, qui s'appelle Promémo, que les gens de la MSH connaissent également. Voilà, c'était leur 20e anniversaire, et vous, CNRS, c'est le 80e anniversaire. Donc, c'est là vraiment la saison des anniversaires. Alors, pour évoquer cet anniversaire, j'ai donc trois personnes autour de moi qui, chacun dans leur domaine, ont des relations, bien sûr, avec le CNRS. Et on va commencer par Sophie Bouffier, qui est donc professeure d'histoire grecque, d'histoire antique, bien sûr, membre du Centre Camille Julian et directrice de la MSH. Alors, Sophie Bouffier, d'abord, faut nous présenter cette institution qui est la MSH et nous parler peut-être des liens que la MSH, les liens très étroits, entretient avec le CNRS.
Oui, alors, votre collègue rappelait que le CNRS avait été créé pour, en gros, pour donner une maison à la science. Ça a été la même chose en 97-98, lorsque Robert Hilbert a fondé la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme, dans un ensemble qui voyait la naissance de plusieurs maisons des sciences de l'homme en France, la nôtre s'étant spécialisée sur les études méditerranéennes, outre les autres missions qu'on lui avait confiées, en particulier la mission de l'interdisciplinarité, rapprochée donc interdisciplinarité dans les années 90, qu'on concevait plutôt comme un rapprochement entre l'histoire, l'anthropologie, la sociologie, les langues, la littérature, enfin des sciences humaines. Et également un rôle, une mission de partenariat interinstitutionnel, donc à la fois avec les différents types de tutelles possibles. Je vais revenir puisque le CNRS est une de nos deux tutelles. Et puis des missions aussi pour nous insérer dans le territoire. Donc dès le départ, parallèlement à cette mission de recherche fondamentale qui était celle du CNRS, on nous a rapidement demandé d'ouvrir nos portes vers le grand public. Et donc, c'est depuis une vingtaine d'années que nous avons commencé d'abord dans le Jazz de Bouffant, puis aujourd'hui à Marseille dans un certain nombre d'événements, dont l'un que vous avez rappelé tout à l'heure, les Journées nationales de l'archéologie. Alors notre lien avec le CNRS, c'est que le CNRS a validé la création de ces maisons en étant tutelle à part entière, en accompagnant leurs travaux avec les universités dans lesquelles c'est MSH était né. Et donc, c'est le CNRS qui assure plus de la moitié de nos moyens et qui, en particulier pour nous, nous a beaucoup soutenus depuis les années 90, puisque si l'université héberge les services de la MMSH, tous les différents services fonctionnent grâce au CNRS. Nous avons des personnels importants et nous sommes donc, la structure de la MMSH est une structure au service des 10 équipes qu'elle héberge, qui sont des équipes d'histoire. Vous entendrez tout à l'heure le directeur du laboratoire Télème, qui parlera mieux de Télème que moi, mais vous avez aussi un laboratoire de sociologie, un laboratoire d'anthropologie, un laboratoire sur les études arabes et musulmanes, l'IREMAM, un laboratoire sur les mondes africains, et puis 5 équipes d'archéologie, de préhistoire, de sciences de l'Antiquité, auxquelles effectivement j'appartiens.
Et donc, on a 11 laboratoires qui font partie de la MMSH.
Alors, on a 10 laboratoires, et la MMSH est elle-même unité de service et de recherche du CNRS, en co-tutelle, CNRS, Université d'Aix-Marseille.
C'est-à-dire, on a quand même, là, dans ces structures, on a quand même un mariage entre l'université et la recherche, le CNRS. Et je crois que ça a été une des volontés d'un des ministres de l'Éducation dans les années 90, je crois, de faire en sorte que les personnels CNRS soient dans le même statut, finalement, que les personnels éducation nationale, il me semble.
Les personnels de l'éducation nationale dépendent du ministère de l'éducation
oui.
nationale.
Oui, non, mais dans leur statut. C'est-à-dire que
des personnes... sont des fonctionnaires.
Oui, voilà, ils sont devenus fonctionnaires. D'accord. Ils sont devenus fonctionnaires, et même avec des échelles de rémunération qui sont à peu près équivalentes, je crois. Enfin, j'ai lu ça quelque part, concernant les deux statuts. Mm-hmm. Non, peut-être pas, alors.
Nous sommes tous fonctionnaires. Le CNRS, il y a effectivement deux catégories de personnel, hein, les chercheurs et les ITA, ce que nous appelons ingénieurs et techniciens adjoints à la recherche, qui soutiennent justement les travaux des équipes de recherche, mais qui, très souvent, sont également chercheurs, parce que pour beaucoup d'entre eux, ils ont une thèse. Alors, le gros apport également du CNRS, hein, je dirais, c'est l'innovation. C'est-à-dire que les personnels que nous avons, en particulier les ingénieurs, ont su, grâce au soutien de leur tutelle, aborder de nouveaux virages, en particulier le virage du numérique. Les plateformes ont été énormément soutenues par le CNRS. Et je crois que c'est un des... Bon, au niveau du numérique, au niveau du multimédia également... le CNRS nous a poussés à nous orienter vers des directions que peut-être traditionnellement, moi je suis enseignant-chercheur, hein, je ne suis pas chercheur, peut-être traditionnellement je l'aurais moins pris si je n'avais pas eu le soutien de mes collègues du CNRS. Mmh.
Et alors ce réseau des maisons de sciences de l'homme, des MSH, alors, comment fonctionne-t-il ?
Alors il y a 23 maisons.
Ah oui.
23 maisons sur l'ensemble du territoire français. Il y en a même une en Polynésie, qui est toute récente, qui n'a qu'une année d'existence. Et l'objectif de ces maisons des sciences de l'homme, c'est justement, pour le CNRS, hein, d'être une voie de transmission entre la politique menée par le CNRS et la politique de site. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le CNRS, depuis une dizaine d'années à peu près, est subdivisé en instituts. Donc nous, à la MMSH, on dépend de l'Institut des sciences humaines et sociales, qui est dirigé par François-Joseph Ruggiu, qui est un historien. Et donc, cet institut, justement, s'appuie, comme le ministère d'ailleurs, hein, notre rôle a été réaffirmé l'année dernière dans une nouvelle charte, le CNRS s'appuie sur les maisons des sciences de l'homme pour irriguer les sciences humaines et sociales sur les sites. Donc nous avons un rôle de relais, hein, pour soutenir les études, pour soutenir les sciences humaines et sociales. Comme nous avons une spécialité sur la Méditerranée, avec un très gros centre de ressources documentaires sur la Méditerranée, des plateformes dont on parlera peut-être, hein, et qui en tout cas seront présentées justement dans le programme de jeudi 10 octobre, nous sommes amenés à soutenir également les études méditerranéennes sur le site. Donc, avec des appels à projets qui concernent aussi d'autres équipes. Alors, lorsque on nous a dit au tout début de l'année, voilà, cette année, le CNRS fête ses 80 ans, on s'est dit, bon, bah, banco, 80 ans, 80 objets, un objet pour chaque année du CNRS. Et notre chargée de culture scientifique, Sylvie Laurence, a effectivement solliciter les équipes, leurs directeurs, les chercheurs, les ingénieurs, pour présenter ce qu'ils avaient de plus réussi, selon eux, hein, dans ce domaine. Et nous avons été invités par le MUCEM à participer à cet anniversaire, parce que le MUCEM est lui aussi très lié au CNRS.
Oui, et donc justement, la particularité de cette structure des MSH fait que l'association CNRS-Université pousse un peu à la pluridisciplinarité. Certainement, ça engage et ça permet et ça aide à la pluridisciplinarité des équipes. C'est ça un peu l'intérêt. On va écouter un petit peu de musique. Un extrait d'une suite orchestrale qui s'appelle Les Planètes. Donc on est en pleine recherche. C'est donc une composition d'un compositeur anglais qui s'appelle Gustav Holst. Et parmi Les Planètes, compositeur du début du XXe siècle, la première moitié du XXe siècle, et justement dans Ces Planètes, j'ai choisi Mars, parce qu'on en parle beaucoup quand même dans la recherche scientifique.
Thank you.
Alors, après cette première partie consacrée à la MSH, on va y revenir, parce que quand même, ce sont nos voisins, ce sont nos partenaires, donc on a des relations particulières avec la MSH, avec le MUCEM aussi d'ailleurs, puisque nous sommes aussi partenaires avec le MUCEM. Et donc, voilà, c'est la journée de partenariat. Alors, Aude Fanlot, vous êtes responsable du département recherche et enseignement du MUCEM. Je rappelle que c'est le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Voilà. Et donc, vous avez, vous aussi, en tant que musée, des liens avec le CNRS. Alors, expliquez-nous un petit peu quels sont ces liens.
Oui, ben lorsque Sophie Bouffier est venue nous proposer le projet, d'abord, je voudrais rappeler que nous avons des liens très forts avec la MMSH depuis notre ouverture, très régulièrement, sur toutes sortes de choses, et en particulier sur des programmes de recherche communs. Donc, travailler ensemble, c'est une habitude et cet événement est un des épisodes de nos nombreuses collaborations. Et puis, ça avait tout son sens parce que, comme vous dites, et c'est peut-être pas tellement connu. D'abord, la recherche au MUCEM n'est pas quelque chose d'excessivement connu. C'est quand même la partie un peu invisible de l'iceberg. Et puis, ces liens avec le CNRS sont méconnus, quoi qu'on les ait beaucoup rappelés. Je ne sais pas si vous l'aviez vu dans l'expo Georges-Henri Rivière que nous avons faite l'an dernier. Toujours est-il que ce n'est pas tout à fait exact, comme il a été dit en intro, le CNRS n'a pas créé le Musée des Nationales des Arts et Traditions Populaires dont nous sommes issus, mais il y a été d'emblée très, très intimement rattaché, puisque les ATP, comme on dit, pour résumer, sont un musée qui naît en 1937, donc un tout petit peu avant.
Non, c'est Jean Zé qui a créé.
Oui, tout à fait.
C'est Jean Zé qui a créé le musée des arts.
Et alors, ce n'est pas créé par le CNRS, mais en tout cas, il est conçu dès le départ comme un musée laboratoire. C'est-à-dire vraiment dans la tête de son fondateur, il y a un écosystème complet. Il y a un musée avec des espaces de conservation, d'exposition et de collection à constituer. Ça, c'est important. Il en a très peu au départ, il va falloir les constituer et avec la recherche. Et puis il y a un labo de recherche à l'intérieur du musée. Et puis il y a la création au niveau de la formation, vous parliez des liens avec l'université, il y a la création d'une chaire vraiment associée au labo, à l'école du Louvre, pour former à la recherche les futurs conservateurs qui ne sont pas encore organisés en profession et en métier de conservation, mais enfin qui sont formés à. Donc voilà, il y a ce lien très intime qui se fait et qui conduit à mener des programmes de recherche, c'est l'autre originalité, qui vont être destinés à constituer des collections. Et ça, c'est pas une représentation non plus qu'on a assez fréquemment des collections d'un musée. Si vous vous demandez, les représentations classiques d'un musée, ce sont des œuvres que l'on va acheter sur le marché de l'art ou qui vont être données par un collectionneur. Voilà. Les ATP se déclaraient le Louvre du peuple et l'idée c'était que les objets du quotidien avaient une dignité tout aussi grande que les objets d'art et que le principe devait être de ne pas justement les acheter chez les antiquaires, comme disait Rivière, ou sur le marché de l'art, mais de les constituer avec leurs acteurs et directement sur le terrain. Et du coup, il s'agissait d'engager des chercheurs, et puis pas que des chercheurs, il y a eu des grands chantiers de recherche avec aussi des étudiants en architecture, des étudiants en arts appliqués, qui allaient mener ces programmes de recherche associé à la collecte d'objets qui allaient rentrer dans les collections. Voilà, donc c'est un musée dont l'histoire et la naissance est très, très, très imbriquée à celle de la recherche et en particulier à un domaine qui était une discipline, disons, qui était en émergence, qui était celle de l'ethnologie française. Voilà, et ça continue au fil des années, ça s'accroît. Et par exemple, donc dès 1938, on a deux chercheurs CNRS qui font partie de l'équipe du musée, qui est une toute petite équipe à 6 personnes. Et en 82, en 81, je crois, j'avais noté qu'ils sont 42 chercheurs quand même. Donc on a des équipes CNRS entières dans le musée. Le CNRS monte avec le musée des programmes de recherche, les finances, donne de l'équipement. Et voilà. Et à tel point, donc, et ça pour Rivière, le fondateur du musée, qui a voulu vraiment cette intrication avec la recherche, c'est un moment très important et une intrication. D'ailleurs, Rivière était membre de la commission du CNRS, donc il y avait vraiment une osmose constante. Et donc en 66, il y a vraiment ce qu'on appelle un musée-laboratoire, c'est-à-dire la formule d'un laboratoire CNRS, le Centre d'ethnologie française, à l'intérieur du musée. Voilà, donc c'est cette histoire que cet événement nous donne l'occasion de rappeler, et par l'entrée sur les objets, qui est une entrée à laquelle on tenait beaucoup, parce que pareil, dans l'appréhension commune, et c'est tout à fait normal, mais pour un visiteur, un musée, c'est d'abord un lieu d'exposition, mais c'est aussi un fantastique lieu de collection donc d'objets dont j'ai parlé, et aussi d'archives, et aussi d'enregistrements sonores, audiovisuels. Et c'est tout cet ensemble qu'on conserve au centre de conservation et de ressources. Et du coup, on a convenu avec Sophie qu'on axerait vraiment cet événement sur l'objet, sur les collections, en montrant du coup cette histoire de très particulière de constitution de nos collections grâce à la recherche.
Oui, d'ailleurs, moi, j'ai été frappé, d'abord en visitant le centre de ressources, et j'ai été frappé justement par l'ampleur de vos collections, que j'ignorais d'ailleurs. Et donc, j'ai vu ça à l'occasion d'une visite. Et c'est vraiment une particularité parce que, y compris dans les expositions que vous organisez, j'ai eu l'occasion d'inviter des commissaires de vos expositions, et à chaque fois, je suis frappé de la recherche quasiment comme une enquête policière pour retrouver des objets dans tous les domaines et construire des expositions qui ont une très grande originalité. Alors, dans leur thème, quelquefois, mais surtout dans leur construction, dans la construction de l'exposition, et une très grande originalité, justement, qui vient de cette recherche que vous organisez et qui est un peu votre ADN. D'ailleurs, je vais dire à nos auditeurs, je vais dévoiler quelque chose, c'est que nous allons bientôt préparer une émission de Marie Nostrum spécifique, spéciale, sur ce centre de ressources, avec Odd van Loo qui est là aujourd'hui, et déjà on a parlé un peu, et c'est quelque chose qui va se faire dans pas très longtemps. Donc voilà, et merci donc d'être venu et d'avoir accepté de faire cette émission-là, et puis surtout celle qui va venir, voilà, qui sera très axée sur cet aspect des choses, et ce sera très très intéressant. On va écouter encore un petit peu de musique. Quelque chose que tout le monde connaît, vous allez vous demander pourquoi j'ai choisi ça, Concerto d'Aranjuez de Joaquim Rodrigo, et tout simplement parce que c'est une œuvre qui a été créée en 1939.
Thank you.
Alors, troisième invité pour nous parler de ces 80 ans, j'allais dire 50, 80 ans du CNRS, Xavier Domalin. Bonjour, vous êtes déjà venu ici d'abord, hein, professeur d'histoire contemporaine et directeur du laboratoire TELEM, dans l'espace langage Europe méridionale et Méditerranée. Et donc, vous allez nous dire un petit peu quels sont les rapports de TELEM avec le CNRS, présenter peut-être votre laboratoire, et puis surtout la pépite de l'exposition, l'exposition UMSEM.
Alors effectivement, TELEM est un laboratoire de recherche en sciences humaines et sociales de la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme. Nous avons été fondés en 1994 par Gérard Chastagnaret et nous sommes ce qu'on appelle une unité mixte de recherche, ce qui signifie que nous avons à la fois des enseignants-chercheurs et des chercheurs et que nous avons donc deux tutelles, Aix-Marseille Université et le CNRS. Et c'est donc à ce titre que nous participons aux 80 ans du CNRS qui sont organisés par la MMSH au MUSEM, à côté d'autres laboratoires de la MMSH avec lesquels nous travaillons très fréquemment, comme le LAMES, l'IREMEM, l'IDEMEC ou le CCJ. Alors, notre laboratoire compte actuellement une cinquantaine de doctorants, 80 enseignants, chercheurs et chercheurs. Et dans le cadre des 80 ans, nous avons décidé de présenter trois objets sous la bannière de TELEM. Un tableau de cheveux de 1831 qui représente un tombeau surélevé de style néoclassique qui est présenté par le groupe Façon d'être, émotion, corps, récit de soi, qui est coordonné par Damien Bouquet, Isabelle Luciani et Isabelle Renaudet. Nous présentons ensuite un site informatique qui s'intitule 80 documents à la une, qui est présenté par le groupe S'informer et informer en Europe méridionale, coordonné par Elisabeth Larriba et Severiano Hernandez. Et enfin, un mur d'images qui est intitulé le Grand Chambardement, regard croisé sur la construction de la zone industrielle de Foss, qui est issue du projet Picture It. Alors, avant d'entrer peut-être dans le détail de certains de ces projets, je voudrais dire un mot sur l'optique, finalement, qui nous a guidés dans cette participation. Dans chacun des projets présentés par les enseignants-chercheurs de TELEM, dans le cadre de cet anniversaire, nous avons essayé de privilégier deux priorités qui sont aussi, à mon sens, celles du CNRS. La première, c'est l'avancée des connaissances, et la deuxième, c'est la mise en société de nos connaissances, que ce soit en présentant des objets très originaux et peu connus, comme le tableau de cheveux, ou en ayant recours à ce qui est un des points forts de TELEM depuis de nombreuses années. Et là, je fais référence aux travaux de Bernard Cousin et sur les ex-voto, et de Marine-Line Crivello sur la télévision. Ce sont les humanités numériques et les visual studies. Ces champs de recherche interdisciplinaires nous permettent d'entrer par un aspect visuel dans la recherche, dans la fabrique de l'histoire, de publier et de documenter les archives des chercheurs à la suite finalement d'un travail d'indexation particulièrement rigoureux, ce qui correspond au grand tournant actuel de la science ouverte. Ça nous permet aussi d'étudier les sociétés au prisme de leur rapport à l'image et aux outils numériques. Et puis, ça nous permet aussi de mener toute une réflexion avec d'autres laboratoires de la MMSH sur la façon dont les outils numériques impactent la recherche, sur la place de nos disciplines dans les espaces publics du numérique ou encore sur les nouvelles formes d'écriture en SHS, ce qui rejoint encore la question de la transmission et celle de la formation.
Mmh. Ce qui me frappe aussi, c'est que dans votre laboratoire, c'est déjà la pluridisciplinarité.
Il y a des historiens, il y a des géographes, il y a des civilisationnistes spécialistes de l'Espagne, nous avons des historiens de l'art. Et évidemment, nous travaillons tous ensemble et nous essayons à chaque fois de porter des projets interdisciplinaires. Et puis, de temps en temps, nous essayons aussi d'aller voir du côté des sciences dures et de plus en plus, en travaillant avec eux sur les questions de pollution industrielle, sur les questions de mémoire, sur les questions d'écosystèmes maritimes. C'était aussi un des points forts et une des spécificités de notre laboratoire.
Oui, je vous avais d'ailleurs invité à l'occasion de vos publications, qui était véritablement pluridisciplinarité intéressante, avec vraiment la science dure de chez dure, on peut dire presque, et l'histoire à propos justement des pollutions dans les calanques. Et ça avait donné quelque chose d'extrêmement intéressant. Concernant donc la présentation donc des documents. Des documents sur ce grand chambardement. Qu'est-ce qu'on peut dire si on les prend un peu en détail ?
Alors, le grand chambardement est issu d'un projet qui s'appelle Picture It, qui consistait à valoriser un fonds photographique de Jacques Weidenberger, que vous connaissez certainement, un fonds qui était déposé aux archives départementales et qui était en train de s'abîmer. Il concerne la construction, les premières années de la construction du port de Foss. Et donc le but était à la fois de numériser ce fonds d'archives, mais aussi de le présenter de façon ergonomique pour qu'il puisse être utilisé par des chercheurs, mais aussi par des étudiants, par des enseignants du secondaire, et puis par tous ceux finalement qui sont intéressés par cette période qui est si importante du point de vue économique, social et environnemental dans notre région. Et c'est comme ça qu'on a conçu ce mur d'images qui a été créé par notre ingénieur Éric Carole en collaboration avec toute l'équipe de Picture It, qui rassemblait des géographes, des historiens, des spécialistes de la valorisation scientifique, des spécialistes de la formation des enseignants aussi, des visual studies. Et c'est cet outil que l'on montre au MUCEM.
Oui, donc qui est bien au centre donc, des préoccupations du CNRS finalement.
Absolument. Et ce projet que nous présentons, ce mur d'images, n'est qu'un le premier élément d'un ensemble plus vaste, puisque évidemment ce mur d'images sera bientôt se trouvera sur un site dédié, à côté de textes de contextualisation, de vidéos, d'un film et d'un webdoc qui s'intitule 200 ans d'histoire industrielle et environnementale à Foss et Tampere.
D'accord. Ok. Et donc voilà pour vos travaux à l'intérieur donc de votre laboratoire. Et vous vouliez en particulier parler aussi d'un élément particulier qui est présenté là au MUCEM. Je crois que vous y teniez un petit peu.
Oui, c'est un petit clin d'œil puisque c'est un autre projet. Donc il s'agit du site 80 documents à la une, s'informer et informer en Europe méridionale, qui est porté par Elisabeth Lariba en interaction avec notre chargée de valorisation scientifique et de diffusion numérique Delphine Cavallo. Il propose un échantillonnage de supports et d'objets de l'information sur lesquels travaillent plusieurs de nos chercheurs. Et donc ce sont 80 sources que l'on confronte, des sources qui sont issus de formats différents, de périodes différentes, mais qui travaillent toutes sur la question de la fabrique de l'information, de son contrôle et de sa circulation. Et parmi ces documents, il y a une petite pépite qui, je pense, ne vous laissera pas insensible. Il s'agit d'une des toutes premières émissions de Radio Zinzine. Donc peut-être que nous pouvons l'écouter.
Et bien voilà, on va pouvoir l'écouter.
Bonjour, vous êtes à l'écoute de Radio Zinzine sur modulation de fréquence 100,5 MHz. Radio Zinzine, la première radio libre de Haute-Provence. Et vous venez d'entendre notre indicatif, vous pourrez reconnaître chaque fois que vous êtes sur Radio Zinzine par ce petit morceau de musique. Nous émettons chaque jour de midi à 14h et de 18h à 20h. Et le samedi et le dimanche, de midi à 20h en continu.
Très bientôt d'ailleurs, à la demande de nombreux auditeurs, nous allons émettre tous les jours en permanence. Je rappelle pourquoi on a créé cette radio. On l'a créée il y a presque un mois maintenant. C'est suite au changement politique qui est survenu en France le 10 mai, qui a évidemment libéralisé un peu dans tous les secteurs, que ce soit professionnel ou culturel ou social. Ça nous a permis de faire ce dont on avait envie depuis longtemps, c'est-à-dire replacer un émetteur assez haut placé et pouvoir émettre sur toute la région. En ce moment, nous allons, nous le savons, jusqu'à Après-Digne et au-delà de Manosque. Je pense que nous sommes également entendus vers Valensol, Péruis, enfin tous les villages à 40 km de rayon.
Bonjour à tous les habitants de Saint-Michel Observatoire. Vous écoutez en ce moment Radio Zinzine, la première radio libre de Haute-Provence.
Voilà donc à la fois un morceau de bravoure et un morceau très très émouvant. Que ces quelques minutes qui nous remontent à juin 1981, donc c'est une des premières émissions, en tout cas c'est la première enregistrée, et qui nous émeut bien sûr énormément. On existe encore, et on espère qu'on va encore durer bien longtemps. Alors Sophie Bouvier, un autre document, un autre élément important de cette exposition au MUCEM.
Alors, je vais rebondir sur ce que disait Xavier Domalin à l'instant. Là, effectivement, TLM a beaucoup travaillé sur les pollutions, l'environnement des côtes de Marseille. Et c'est là aussi un point de liaison avec d'autres laboratoires de la maison, en particulier dans les Calanques, puisque Moi, comme archéologue du Centre Camille Julien, j'ai travaillé sur la période pré-romaine, hein, sur les relations entre les Grecs et les indigènes, avec des prospections, des fouilles dans ce massif des Calanques. Et puis Nicolas Fauchère, archéologue médiéviste, a travaillé sur tous les systèmes de fortification. Xavier a travaillé sur les pollutions et les industries qui s'étaient installées dans les Calanques au 19e. Et donc tout ça... Ça a fait un projet de web documentaire de la part d'une vidéaste qui s'appelle Suzelle Roche, qui est en cours de montage. C'est une trilogie, donc le web, la partie de Nicolas Fauchère, c'est-à-dire sur les systèmes de fortification et de défense de Marseille, est déjà en ligne. Ensuite, c'est Xavier Domalin qui a travaillé, puis elle commence à construire la partie antique sur cette zone de marge, hein, à toutes les époques jusqu'à aujourd'hui. Donc ça, c'est un projet qu'on va présenter justement au Mucem et qui montre justement cette interdisciplinarité, cette diachronie aussi, qui est un des principes de la Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme, et qui donc rassemble... plusieurs laboratoires sur une même thématique. Alors, je pourrais citer aussi les différentes plateformes multimédia qui unissent les partenaires de la MMSH et qui seront présentés jeudi pendant cette soirée au Mucem, hein, qui commence à 16h15, avec la visite du bateau, de la réplique navigante d'un des premiers bateaux de Marseille qui a été découvert dans le Vieux-Port et qui a fait l'objet d'une réplique, d'une restitution en 2013 pour Marseille-Provence 2013. Donc les Marseillais connaissent déjà un petit peu ce bateau qui a été appelé Gyptis par ses fondateurs, Patrice Pomet et Pierre Poveda pour le centre Camille Julien, qui a été financé par les collectivités territoriales et qu'on peut voir encore dans le Vieux-Port et qui lancera la cérémonie publique jeudi au Mucem.
Ah oui, ça va être intéressant, il ne faut pas le rater, ça. Hein, ce départ du navire, là. Alors revenons donc un peu au Mucem avec Aude Fanlo. Et alors vous, qu'est-ce que vous mettez en avant dans cette journée de...
Alors, il faudrait peut-être juste dire un mot sur le programme dans son ensemble et comment on l'a conçu. Donc d'abord, vous rappelez tous que vous êtes les bienvenus, que tous vos auditeurs sont les bienvenus à partir de 16h15 au Mucem, mmh, pour cette soirée. Et en tout cas, lorsqu'on a construit le programme, on l'a décliné en trois temps un peu différents. Une très grande soirée, une soirée très grand public et très grande soirée publique, je ne sais pas comment ce qu'on peut dire, qui va se passer donc au Mucem, à l'auditorium, avec à la fois tout un ensemble d'interventions qui vont présenter, où chaque chercheur va présenter un de ses travaux par le biais justement d'une présentation objet, même si le sens d'objet peut être assez large. Et puis en même temps, dans le forum qui est attenant à l'audito, il y aura des ateliers, une présentation sur un grand mur d'images de 80 travaux de recherche en cours, sur ces sujets, et puis avec des ateliers proposés aux petits et aux grands. Et puis l'autre volet, c'était à destination des enfants, en particulier des scolaires, et dans le cadre de la fête de la science. Donc toute la journée vont défiler des petits de tout niveau pour faire à la fois participer à des ateliers, faire des visites notamment du Gyptis, et puis aussi des visites des expos, et en particulier du Temps de Lille, qui est notre expo temporaire en ce moment. Et puis le troisième volet qui me tenait quant à moi particulièrement à cœur aussi, bien qu'il soit de moins grande ampleur, mais c'était une journée professionnelle destinée à réunir justement à convier en fait des chercheurs dans nos réserves dont je parlais et à créer une déambulation dans cette réserve en favorisant des dialogues courts entre les conservateurs et les équipes scientifiques du MUCEM qui ont en charge ces objets et les chercheurs soit qui ont contribué à amener ces objets au fond dans nos réserves, soit qui par leurs travaux peuvent les relire, proposer de nouvelles lectures, de nouvelles vies à ces objets. Voilà, et donc on a fait toute une petite série comme ça de balises dans les réserves, et ces balises-là vont se retrouver aussi présentées dans le mur d'images qui est dans le forum. Voilà, par exemple, Xavier parlait des tableaux en cheveux, ben voilà un appareillement. Il se trouve que nous avons dans nos réserves des objets absolument extraordinaires fabriqués en cheveux, des objets en cuir, des tableaux très, très impressionnants, très étranges. Et donc, c'est ce croisement-là qui est intéressant pour un conservateur. Quelle est la vie de cet objet, son histoire, les enjeux qu'il y mène par rapport à la politique du musée, par rapport à la manière dont il anime ce fonds, en fait. Et pour un chercheur, quel regard il peut porter là-dessus. Voilà, on va présenter par exemple le fonds Gabriel Camps, qui a été un chercheur éminent de la MMSH et dont nous avons une partie du fonds. Voilà, ce type d'appareillement, d'ébullition, ça ce sera pour le matin et l'après-midi. On continue cette journée grâce à nos amis des musées de Marseille qui ont accepté d'être partenaires de l'opération. Et un petit peu sur ce principe de présenter les collections des musées de Marseille et de faire interagir de la même manière chercheurs et équipes scientifiques du musée. Voilà.
Et donc vous aurez quoi ? Quel musée ? Le musée d'histoire de Marseille ?
Oui, essentiellement le
musée de charité.
Non, essentiellement le musée d'histoire de Marseille, parce qu'il fallait des troupes suffisantes des deux côtés. Donc ça va se passer dans le nouveau jardin des vestiges.
Oui,
hein,
oui qui vient d'être inauguré.
Voilà, autour de quelques thématiques principales, dont justement le port lui-même, et puis certaines réserves, en particulier en architecture de Marseille.
Et ça, c'est le jeudi après-midi, donc.
Oui, hein. C'est jeudi après-midi.
D'accord. Donc... jeudi matin, c'est professionnel, les réserves.
C'est une journée en fait très sportive. La recherche, c'est excessivement sportif. Donc le matin, nous sommes au centre de conservation et de ressources de la Belle de Mai. Puis nous courons jusqu'au musée d'histoire pour l'après-midi. Puis nous serons à partir de 16h15 avec tous. Alors, dans la Galerie de la Méditerranée, dans Ruralité, qui est notre, vous savez, une de nos deux expositions oui. semi-permanentes, où on va commencer par le vernissage d'une installation d'artiste de Vincent Chevillon, qui a fait l'objet d'un commissariat de Martha Gécou, qui est résidente de l'IMERA de l'Université d'Aix-Marseille et du MUCEM, donc une sorte d'entrée en matière par des collaborations recherche-musée. Et puis après, on s'engouffre dans l'auditorium, on écoute 80 objets et 80 travaux à travers 80 objets, et puis on fait un grand tour du forum et on voit ces objets, on les touche, on les teste, et puis après, on voit une très jolie proposition scénographique proposée par la compagnie Oligoptique et puis par par Cédric Parizeau qui est chercheur à l'IREMAM et qui montre comme ça des propositions art science très 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 sensibles et en particulier avec le théâtre vivant et c'est comme ça qu'on finit la soirée en beauté.
Eh ben dites donc. Ceux qui vont participer vont bien dormir le soir. Hein. Alors, dites-moi, ce spectacle théâtral, est-ce que vous pouvez en dire un peu plus pour que les gens aient envie de venir, par exemple ?
Alors, la thématique, déjà, c'est sur la frontière en Israël, entre les Palestiniens et les Israéliens.
D'accord, voilà.
Donc, ce chercheur travaille justement sur ce thème de la frontière. Cédric Parizeau, donc un chercheur CNRS, et il a fait appel à un jongleur pour mettre en scène cette frontière, ce mur. Et tout est en suggestion, évidemment. Le jongleur ne parle pas, ouais. Il jongle, Il présente des objets, il les met en mouvement, il les lance, il les rattrape. Tout ça pour essayer de suggérer justement la...
Toutes les problématiques qui tournent autour de la frontière. Voilà. C'est fin et c'est très suggestif en même temps. C'est-à-dire qu'on comprend par ces gestes-là, sans un mot, la plupart des problématiques qui tournent autour de cette question de frontière.
D'accord, oui. Ah oui, c'est intéressant ça. Mmh. Bon, je pense que vous avez donné envie aux auditeurs de venir, alors.
Mais il y a toute une série de films aussi qui sont des documentaires sur les projets en cours. Ouais. On va présenter aussi les plateformes que peuvent utiliser aussi les enseignants dans les collèges et dans les écoles. Vous avez un certain nombre de supports multimédia, de films, de reportages qui décrivent notre monde méditerranéen, qui l'analysent, qui le décryptent. Je pense que tout le monde peut y trouver son compte. Ceux qui aiment l'histoire, ceux qui aiment l'archéologie, ceux qui aiment la préhistoire, soit à travers justement ces objets qui seront présentés sur scène, soit à travers des montages documentaires, le mur d'images, tout ça de manière très ludique finalement. Parce que c'est fini le temps où on arrivait pendant une heure, on faisait une grande conférence avec juste son papier. Aujourd'hui, on met des diapositives, on fait appel à des jongleurs.
Oui, il faut que ce soit animé de toute façon.
Exactement.
Oui, il y a besoin d'animation.
Mais en tout cas, à travers à la fois le forum et ce qui va se passer dans l'audito, c'est sur quelques heures le moyen de découvrir un gisement de ressources.
Oui, c'est ça.
Divers et variés. C'est un exercice de curiosité tout azimut. Quoi.
Mais ce qu'a dit Aude sur le tableau de cheveux est symptomatique finalement de la philosophie générale de ce projet, puisque les rencontres qui sont menées au Saint-Elem autour de ce tableau de cheveux, qui rencontrent les travaux donc, du groupe qui travaille sur le corps, et ont permis de ressortir ces objets. Hein, et de les mettre en valeur. Alors ce tableau de cheveux, c'est véritablement un document assez exceptionnel qui est directement lié aux travaux qui sont initiés, qui ont été initiés autrefois par Michel Vauvel et puis qui ont été repris par Régis Bertrand et plus récemment par Anne Carroll concernant le corps mort. Et c'est véritablement un élément important, c'est une relique, c'est une tombe domestique qui redouble celle que l'on visite au cimetière. Et ce tableau de cheveux témoigne indirectement du culte des morts qui se développe au XIXe siècle dans le contexte de ce que Régis Bertrand appelle la transition funéraire. Donc là, ces recherches importantes pour notre laboratoire qui sont menées depuis plusieurs années autour de ces thématiques rencontrent finalement cette collection du musée et permet de ressortir un certain nombre d'éléments qu'on n'avait pas pensé peut-être à mettre en valeur. Donc c'est véritablement, je trouve, un très beau résumé de la philosophie générale de ce projet.
Mmh. Et ce tableau... Je fais de curiosité peut-être un peu morbide. Hein. Est-ce que c'est un tableau qui est constitué avec des cheveux
tout à fait.
Des personnes décédées,
absolument,
c'est ça
absolument,
c'est
donc, absolument. Soit ce sont des mèches de cheveux, soit des bouts de cheveux coupés très fins et qui sont collés. Il y a toute une technique, mais justement, je vous invite à aller le découvrir et à découvrir la notice qui l'explicite.
Et oui, c'est ça.
Et il y aura même, je pense, Madame Renaudet, Isabelle Renaudet, qui est une de nos collègues, qui présentera tout ce qui tourne autour et toutes les recherches qui tournent autour de ce tableau.
Oui ça, finalement, ça rejoint... À la fin du XIXe siècle, il y a beaucoup cet attrait un peu bizarre. Parce que j'ai vu passer dans mes lectures ou dans je ne sais trop quel magazine ces photos prises par prises d'enfants décédés dans les parents. Ils sont placés dans les bras des parents et on fait une photo juste avant de les inhumer. Je trouvais ça invraisemblable. C'est vrai que ça nécessite qu'on l'étudie quand même, parce que c'est quand même assez surprenant. Un petit peu de musique, Darius Milhaud, là aussi, Fantaisie pastorale, opus 188, qui a été aussi créé en 1939. Thank you. Alors voilà, on rappellera donc que cet anniversaire du CNRS va donc se dérouler le 10 octobre, essentiellement à Marseille au MUCEM. Tout le programme, vous pouvez le retrouver sur le site de la MMSH ou sur le site du MUCEM. Donc il va vous guider dans toute cette journée qui mérite d'être longue, mais extrêmement intéressante. Et donc nous pensons que beaucoup de nos auditeurs vont se déplacer, et beaucoup de gamins aussi des écoles de Marseille, parce que ça peut leur apporter que des choses intéressantes. Voilà, je voulais donc terminer en disant que vous pouvez nous écouter sur Radio Zinzinex, où vous pouvez télécharger également les émissions. Et donc, pour terminer, donc une petite musique surprise.
Thank you.